Radio Kapi.
Les informations, Gisèle Cage. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour notre journal. Commençons par le titre. Le FARDC dénonce le renfort militaire rwandais et M23 AFC à Walikale et les attaques contre leurs troupes. Cette escalade met en péril les efforts internationaux pour la paix, avertit le porte-parole de l'armée dans un communiqué. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a promis un soutien total à un cessez-le-feu immédiat dans l'est de la RDC. Le représentant permanent de la RDC a souligné quant à lui l'urgence d'appliquer la résolution 2773 pour le retrait des troupes rwandaises et la cessation immédiate des hostilités par le M23. Le Rwanda, de son côté, se mobilise pour désamorcer la crise, selon son représentant à l'ONU, tandis que la France appel au dialogue et au respect des engagements. Les détails, c'est tout à l'heure. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha, le rôle de la MONUSCO dans la médiation, la protection des civils, la résolution 2773 pour mettre fin aux violences et le désengagement de la MONUSCO du Nord Kivu et de l'Ituri. Bintou Keïta a partagé ce point de vue sur ces questions lors d'une interview exclusive à la radio des Nations Unies à New York. Elle est l'invitée spéciale de ce journal. Restez à l'écoute pour tout savoir. Les forces armées de la RDC dénoncent et condamnent le renforcement des positions de l'armée rwandaise et du M23 AFC en hommes et en matériel, ainsi que les attaques contre leurs militaires. Dans un communiqué publié jeudi et signé par le porte-parole, l'armée regrette que cette attitude compromette les efforts internationaux pour rétablir la paix dans l'est de la RDC. Le point avec Billy Yvan Lutumba.
Ces actes, révèle le porte-parole de l'armée, sont tout d'abord contraires aux déclarations des rebelles M23FC contenues dans leur communiqué du 22 mars annonçant un cessez-le-feu unilatéral et leur redéploiement hors du territoire de Walikale. L'armée congolaise signale que les dernières attaques ont visé ses positions non seulement dans le territoire de Walikale au nord Kivu, mais aussi dans celle du sud Kivu, particulièrement à Moulamba et Boulongué dans le territoire de Walungu, ainsi que dans les hauts plateaux de Minembwe en territoire de Fizi. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment qu'elles continuent de s'inscrire dans la logique des initiatives de paix récemment menées en s'abstenant pour l'heure de déclencher des actions offensives afin de permettre le retrait rapide des forces hostiles de Walikale, comme précédemment annoncé. L'armée déclare qu'elle demeure néanmoins plus que déterminée et mobilisée et se réserve le droit de réagir pour protéger la sécurité des populations et de leurs biens en contrant les actes d'hostilité de nature à compromettre la pause des combats que les rebelles du M23FC ont eux-mêmes décrétés.
Direction New York, la MONUSCO réaffirme son engagement à soutenir toutes les initiatives visant à rétablir la paix en RDC. La chef de la mission, Bintou Keïta, a déclaré jeudi dernier devant le Conseil de sécurité de l'ONU que la MONUSCO mettra tout en œuvre pour appuyer un éventuel cessez-le-feu entre les belligérants dans l'est du pays. Lors de ce briefing suivi des consultations à huis clos, elle a également abordé le désengagement de la MONUSCO dans le Nord Kivu et l'Ituri, soulignant la volonté de la mission de poursuivre les discussions avec le gouvernement. Bintou Keïta, dans cet extrait.
La MONUSCO reste déterminée à soutenir les initiatives de paix régionale en cours. J'encourage toutes les initiatives de paix régionale à adopter une approche sensible au genre. Je salue la nomination de 2 femmes au sein du panel de facilitateurs de l'initiative conjointe SADC-IEC. De plus, il est essentiel que le processus de Nairobi prenne en compte la spécificité aussi des femmes combattantes dans les groupes armés. La mission se tient prête également à mettre ses capacités à profit pour la mise en œuvre d'un éventuel cessez-le-feu. La détérioration dramatique de la situation sécuritaire dans l'est du pays a eu un impact majeur sur les discussions entre la MONUSCO et les autorités congolaises concernant le désengagement progressif et responsable de la mission et de la transition au sud Kivu. Les efforts du groupe de travail conjoint composé du gouvernement, de la MONUSCO et de l'équipe pays des Nations Unies pour définir les modalités de planification du désengagement de la mission des provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri ont également été compromis car plusieurs hypothèses de planification sont désormais caduques. Cependant, la mission réaffirme sa détermination de poursuivre les discussions de désengagement et de transition avec le gouvernement.
Notez que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC a présenté lors de cette rencontre le dernier rapport couvrant le développement depuis le 29 novembre dernier. Suite à l'exposé de la chef de la MONUSCO, le représentant permanent de la RDC auprès des Nations Unies a insisté sur l'urgence d'appliquer strictement les dispositions de la résolution 2773 du Conseil de sécurité pour mettre fin aux violences et protéger les populations civiles dans les régions affectées. Cette résolution exige notamment le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et la cessation immédiate des hostilités par le M23 Xeno Mukongongai, l'a affirmé lors du briefing du Conseil de sécurité de l'ONU le jeudi à New York. On l'écoute.
Loin d'entraver les initiatives africaines, la résolution 2773 les renforce et les complète. L'ampleur et la persistance de ces violences suggèrent qu'on ne peut plus se permettre de laisser cette crise s'éterniser sous prétexte qu'elle serait un problème africain nécessitant une solution africaine sans trahir l'esprit de solidarité internationale qui constitue le fondement du système de sécurité collective des Nations Unies. C'est le moment de rappeler que la République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il achève avec fermeté et diligence l'œuvre qu'il a commencée ici le 21 février 2025 pour protéger la paix et la sécurité internationale conformément aux prescrits de la Charte des Nations Unies. En d'autres termes, la mise en œuvre de la résolution 2773 s'impose comme une priorité. À ce jour, aucun soldat rwandais ne s'est retiré du territoire de la République démocratique du Congo. Aucun élément du M23 AFC ne s'est retiré de Goma ou de Bukavu et de toutes les zones contrôlées et aucune administration parallèle illégitime n'a été démantelée.
Le Rwanda de son côté accuse la RDC de collaborer avec le combattant FDLR et de mauvaise gouvernance parmi les causes du conflit. Cependant, Kigali affirme se mobiliser pour toutes les initiatives visant à désamorcer la crise, rétablir la paix dans la région du Grand Lac. Écoutons le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Nduhungirehe, dans cet extrait traduit en français.
Ce conflit n'a pas été lancé par le Rwanda, mais le fardeau qu'il représente repose sur les épaules du Rwanda. Les causes profondes de ce conflit remontent tout d'abord à la préservation de la milice génocidaire d'FDLR, en dépit de son passé de massacre ethnique de recrutement d'enfants soldats. La récente capture et la remise au Rwanda de membres d'FDLR, notamment un commandant, nous montre que le gouvernement de la RDC a intégré des combattants FDLR dans son armée nationale. Kinshasa leur a fourni des armes, des ressources, une plateforme pour alimenter leur idéologie génocidaire. Deuxièmement, la persécution systématique dont sont victimes les Congolais parlant le Kinyarwanda, en particulier les communautés Tutsis, est liée au passé colonial. Sont concernées des communautés dans le sud Kivu et en Ituri. Pourquoi le Rwanda est-il ciblé de manière disproportionnée? Rien n'est moins clair. Mais ce qui est clair à nos yeux au Rwanda, c'est que les mesures défensives que nous avons instaurées seront maintenues tant que nous n'avons pas un cadre crédible de garantie de sécurité à long terme le long de notre frontière avec la RDC.
Au cours de la même rencontre au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Angola, bien qu'il se soit retiré de la médiation du conflit entre la RDC et le Rwanda, continuera de se mobiliser auprès de toutes les parties prenantes et de soutenir toutes les initiatives visant à désamorcer les tensions selon son représentant à l'ONU. Sachez aussi que la France appelle au dialogue et au respect des engagements de toutes les parties en conflit, notamment le cessez-le-feu, afin de permettre aux initiatives régionales et internationales de parvenir à une résolution pacifique du conflit. Écoutons Jérôme Bonafont, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies.
Un mois après l'adoption de la résolution 2773, il est de la responsabilité de ce Conseil de maintenir son implication en faveur de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, comme dans la région. Le Conseil de sécurité s'est exprimé sans ambiguïté pour exiger une cessation immédiate des hostilités. Les affrontements quotidiens se répètent sur la ligne de front, les exactions contre les civils, les violations des droits de l'homme, les violences sexuelles se multiplient, le risque d'embrasement de la région des Grands Lacs demeure, le Conseil ne saurait se satisfaire de la situation actuelle. La conclusion d'un cessez-le-feu respecté par toutes les parties est donc au sommet des priorités. La France soutient les efforts à cette fin, qu'il s'agisse des appels au cessez-le-feu annoncés après la rencontre de Doha le 18 mars ou dans le cadre du processus régional SADC-EAC. Les initiatives de dialogue doivent se poursuivre afin de parvenir à des progrès concrets et observables vers l'arrêt des hostilités. Je souligne l'importance du rôle de la MONUSCO qui évolue dans un environnement dégradé et se voit trop souvent entravée dans son action par le M23. Son mandat de protection des civils doit être pleinement mis en œuvre dans toute sa zone de responsabilité. La MONUSCO dispose de capacités adaptées pour participer à la surveillance d'un cessez-le-feu une fois un accord conclu.
Tous ces éléments sonores ont été sélectionnés et proposés par Grâce Hamzati. Retour à Kinshasa, une centaine d'entreprises du portefeuille de l'État ainsi que des services et établissements publics en situation irrégulière de leur état financier sont invités à se justifier selon un communiqué du parquet général auprès de la Cour des comptes. Certains responsables de ces entreprises ont violé les principes de reddition des comptes pour les exercices 2022 et 2023. Le parquet général précise qu'au terme de l'article 30 alinéa 2 de la loi organique du 13 novembre 2018, les entreprises du portefeuille, les établissements et le service public doivent transmettre leurs comptes annuels à la Cour dans les 3 mois suivant leur adoption par l'Assemblée générale, le Conseil d'administration ou l'organe tenant lieu. Ce journal se poursuit sur Radio Kapi. La mobilité est l'un des défis majeurs auxquels la ville-province de Kinshasa est confrontée depuis quelques années. Se déplacer d'un endroit à un autre dans la capitale congolaise reste un véritable casse-tête pour de nombreux habitants en raison des embouteillages monstres régulièrement observés sur les grandes artères de la ville. Fonctionnaires, commerçants et même les élèves en souffrent, ce qui impacte négativement leur formation scolaire. Plotin Yambenga nous en parle dans ce reportage.
Des longues files de passagers sont visibles le long du boulevard Lumumba à la hauteur des quartiers 1. Tous s'empressent pour éviter les retards, soit au travail, soit à l'école. Ces embouteillages ont plusieurs effets sur la formation des élèves, explique quelques-uns rencontrés ce matin sur les chemins de l'école.
Et tout d'abord, on doit se réveiller très tôt pour les éviter. Et puis lorsqu'on arrive, il y a toujours les embouteillages parce que le sens unique. Et puis là, nous sommes en train d'attendre. Et lorsqu'on arrive à l'école, deux fois, c'est en retard. On nous fait entrer juste par pitié après avoir vu le journal des classes et puis voir que nous habitons loin.
Tu peux arriver au sein, on a fermé la porte et le père préfet vous dit que non, vous êtes venu en retard, vous ne pouvez pas étudier, rentrer à la maison. Tu vois. Donc je rate d'abord le cours et je rate des interrogations.
Vous allez descendre, faire le pied, il y a de la boue, tu viens à l'école, t'es salué.
Ça me fait gaspiller d'abord beaucoup d'argent. Quand je viens à l'école le matin, je suis obligé de prendre la moto. Et la moto a beaucoup de risques parce que je viens en sens unique.
Les enseignants ne sont pas en reste. Eux aussi sont confrontés à ces calvaires, soulignent Barthélémy et Jean-Paul, respectivement directeurs des études et enseignants au collège technique Don Bosco de Massina.
Je dois me réveiller à 4h, 4h30 pour arriver ici au plus tard 7h juste. Et pourtant, une distance qui peut me coûter en moins de 15-20 minutes.
Ils arrivent toujours tard à l'école et ils sont fatigués. Des fois, ils dorment et ils ne suivent pas bien le cours.
D'après certains instructeurs, les retards et les déficits de sommeil sont des obstacles majeurs à l'apprentissage des jeunes.
Actualité internationale. Au Soudan du Sud, l'escalade vers une nouvelle guerre civile se poursuit. Le 26 mars au soir, le premier vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée par les forces de sécurité sud-soudanaises. Cette arrestation survient après 2 semaines de tensions marquées par l'arrestation de certains de ses sympathisants et des combats autour de la ville de Nassir le 4 mars, où un général de l'armée régulière a été tué par un groupe armé réputé quartier proche de Riek Machar. Selon un communiqué du mouvement populaire de libération du Soudan en opposition, le parti de Riek Machar, vers 21h45, des hommes lourdement armés, conduits par le ministre de la Défense et le chef de la Sécurité nationale, se sont introduits dans la résidence du premier vice-président pour l'arrêter, lui et sa garde rapprochée, qui a été éminée vers une autre localisation. Pour Nathaniel Oyet, vice-président du parti, cette arrestation est une tromperie, un manque de volonté politique d'apporter la paix et la stabilité dans le pays. Il ajoute que l'accord de paix de 2018 est désormais abrogé. Pour l'heure, bien que la situation soit calme dans la capitale, Djouba, les accès à la maison de Riek Machar sont bloqués par des véhicules blindés et la sécurité autour du Parlement semble avoir été renforcée.
L'invité.
Hier, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a fait le point sur la situation en République démocratique du Congo. Elle a également accordé une interview exclusive à la radio des Nations Unies à New York. Nous vous proposons un extrait de cet entretien avec Jérôme Bernard.
Bonjour Madame Bintou Keïta. Les présidents congolais et rwandais se sont rencontrés à Doha, au Qatar, la semaine dernière pour évoquer un cessez-le-feu. Quel rôle joue l'ONU et en particulier la MONUSCO pour trouver une solution politique au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo?
La présence des deux chefs d'État, le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha avec l'émir du Qatar, montre une image positive puisque les deux hommes ne se sont pas rencontrés physiquement depuis très longtemps. Maintenant, en ce qui concerne le rôle de la MONUSCO dans les processus d'appui aux efforts de médiation dans la région, nous, on a été associés très clairement dans les processus de Luanda avec la facilitation angolaise du président João Lourenço et de son équipe, le ministre des Affaires étrangères, mais aussi les équipes qui accompagnent le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Tété Antonio. Et avec les collègues du bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs et d'autres collègues qui sont dans la région, nous tous, nous avons apporté notre contribution en termes d'expertise, de connaissance du terrain, physique du terrain. Ça fait quand même plusieurs années que la MONUSCO est en RDC. Et aussi, nous avons les efforts du siège, du secrétariat, le bureau qui nous appuie ici, mais aussi le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, M. Jean-Pierre Lacroix, tous engagés pour faire en sorte que l'expertise des Nations Unies soit apportée à la fois au sein du Conseil de sécurité, puisque nous avons maintenant quand même une résolution du Conseil de sécurité qui est majeure, la résolution 2773, qui dit très clairement ce qu'il faut obtenir afin de donner une chance au processus diplomatique et politique, parce que c'est ça, en fait, le nœud gordien de toute cette situation que nous vivons présentement à l'est de la RDC. Et là, très clairement, en tant que MONUSCO, nous nous tenons prêts à pouvoir appuyer la première étape qui est celle de l'observation d'un vrai cessez-le-feu et d'amener nos équipes à faire le travail nécessaire aux côtés des initiatives qui seront développées et par le Conseil, ça c'est important, et par les régions ISI, SADC, et voir maintenant comprendre ce que le Qatar entend dans les jours prochains et les semaines prochaines vis-à-vis de l'initiative qu'ils ont entreprise.
Les casques bleus de la MONUSCO sont déployés dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Dans le contexte du regain du conflit, qu'est-ce que la MONUSCO est en mesure de faire pour protéger les civils? Et avant le regain du conflit, on parlait d'un désengagement progressif de la MONUSCO. La MONUSCO a quitté le Sud-Kivu et on parlait d'un désengagement du Nord-Kivu et de l'Ituri. Est-il réaliste pour la MONUSCO de prévoir de partir de ces deux provinces?
Il est important de se rappeler que les discussions autour du désengagement de la mission MONUSCO, c'est pas juste la mission qui parle avec elle-même. La mission parle avec l'autorité congolaise, le gouvernement congolais, à tous les niveaux, affaires étrangères, prématures et présidence, pour s'accorder sur la manière dont le désengagement doit être fait. Et il se trouve que en décembre, lorsque notre mandat résolution 2765 nous a été donné, il était prévu que nous viendrions fin mars auprès du Conseil de sécurité pour décrire la manière dont le désengagement s'effectuerait au Nord Kivu et en Ituri sur la base des leçons que nous avions apprises du désengagement du Sud Kivu l'année dernière. Or, il se trouve que depuis la tripartite qui était annoncée pour le 15 décembre, après l'adoption de notre résolution 2765, il y a eu une continuation de la détérioration de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, qui s'est même encore accélérée début janvier et a culminé fin janvier, le 28 janvier, avec la prise de Goma par le M23, et a continué avec la prise de Bukavu début février. Quand on regarde tout ça, vous comprenez bien que ce soit pour le gouvernement ou que ce soit pour les Nations Unies et la MONUSCO en particulier, l'urgence c'était de gérer la crise, la détérioration de la situation. Donc l'espace pour s'asseoir ensemble et discuter, pour raffiner la méthodologie sur laquelle les grands principes nous étions d'accord, hein, depuis septembre l'année dernière jusque en décembre, il n'y avait pas l'espace-temps pour faire ça. Donc le Conseil va recevoir une lettre du secrétaire général qui va admettre qu'il n'a pas été possible, dans le contexte des développements actuels, de pouvoir aller plus avant dans le raffinement de la méthodologie du désengagement. Mais vous m'avez aussi posé une autre question, qui est la continuation du rôle de la mission en matière de protection des civils. Comme vous le savez, c'est un de nos mandats prioritaires. Et donc, que ce soit dans les zones contrôlées maintenant par le M23 ou dans les zones où il n'y a pas le M23, et là on parle du Grand Nord et de l'Ituri, la mission MONUSCO continue de mettre en œuvre son mandat de protection des civils. Alors, la grande question que les gens me posent, c'est oui, mais dans les zones contrôlées par le M23, est-ce qu'il y a des patrouilles qui sont faites par les casques bleus? Est-ce que donc, s'il n'y a pas de patrouille, il n'y a pas de protection des civils? Il faut juste se rappeler qu'il y a trois manières de faire la protection des civils. Il y a les engagements politiques, il y a la sécurité physique, la protection physique par la présence physique, et puis il y a les conditions pour que les populations se sentent bien. Donc c'est les trois tiers de la protection des civils. Si on regarde le deuxième tiers, qui est la présence physique, le fait même de la présence de la MONUSCO à Goma, avec son Force Headquarters, avec les troupes présentes sur le terrain, avec le fait que plusieurs milliers de personnes sont venues se réfugier dans les bases de la MONUSCO. Certes, à un moment donné, ils vont devoir sortir des bases de la MONUSCO, mais ça, c'est de la protection des civils. Alors, on me dit, mais est-ce que ce sont des militaires ou est-ce que ce sont des civils ? À partir du moment où ils sont dans nos bases, ils sont tous considérés comme non-combattants parce qu'ils sont désarmés et donc ils sont des civils. Notre rôle de protection des civils, c'est de répondre aux demandes de protection individuelle. Dans le contexte des zones sous contrôle M23, nous avons une forte demande d'individus, de groupes qui veulent venir dans nos bases pour être protégés. En ce moment, faire la protection des civils, c'est pas de faire des patrouilles dans l'environnement, c'est de pouvoir accueillir ceux qui sont en recherche d'un refuge dans les bases de la MONUSCO. Et c'est aussi les éléments de plaidoyer en engageant le M23 et l'Alliance Fleuve Congo par rapport au droit humanitaire international, aux droits de l'homme. Et c'est aussi continuer à engager le gouvernement central à Kinshasa sur ce qui doit être fait pour améliorer les conditions de vie des personnes qui sont dans les sites de déplacés à qui on a demandé de partir pour retourner dans leur lieu d'origine et qui peut-être le font parce qu'ils n'ont pas le choix, mais il n'y a pas nécessairement d'accompagnement comme cela est prévu dans le contexte du droit humanitaire international.
Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, s'est entretenu avec Jérôme Bernard de la radio des Nations Unies à New York. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien sur notre site www.radiocapi.net. Ainsi s'achève ce journal sur Radio Capi. À la mise en onde, Deps Vita, coordination, supervision, Pelekipe Lamondo, présentation Gisèle Cage. Pour suivre autrement le programme de votre radio, restez connectés avec nous sur WhatsApp via les liens disponibles sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Restez à l'écoute de Radio Capi pour découvrir la suite de nos programmes. Merci pour votre fidélité.